Chapitre 9, Versailles, la journée du 5 octobre, la soirée du 5 au 6 octobre. Comme toujours, on ignorait complètement à Versailles ce qui se passait à Paris. Après les scènes que nous avons décrites et dont la reine, le lendemain, s'était félicitée, tout la reine se reposait. Elle avait une armée, elle avait des séides, elle avait compté ses ennemis, elle désirait engager la lutte. N'avait-elle pas la défaite du 14 juillet à venger? N'avait-elle pas ce voyage du roi à Paris, voyage dont il était revenu avec la cocarde tricolore au chapeau, à faire oublier à sa cour et à oublier elle-même? Pauvre femme, elle ne s'attendait guère au voyage qu'elle allait être forcée de faire elle-même. Depuis son altercation avec Charny, elle ne lui avait plus parlé. Elle affectait de traiter André avec cette ancienne amitié un instant assombrie dans son cœur à elle, à jamais éteinte dans celui de sa rivale. Quant à Charny, elle ne se tournait et ne regardait de son côté que lorsqu'elle était forcée de lui adresser la parole pour son service ou de lui donner un ordre. Ce n'était pas une disgrâce de famille, car le matin même du jour où les Parisiens avaient quitté Paris pour venir à Versailles, on vit la reine causer affectueusement avec le jeune Georges de Charny, le second des trois frères, celui-là même qui, contrairement à Olivier, avait donné de si belliqueux conseils à la reine à la nouvelle de la prise de la Bastille. En effet, vers 9 heures du matin, ce jeune officier traversait la galerie pour annoncer aux veneurs que le roi allait chasser, quand Marie-Antoinette, qui venait d'entendre la messe à la chapelle, l'aperçut et l'appela. « Où courez-vous ainsi, monsieur ? » dit-elle. « Je ne courais plus, dès que j'avais aperçu votre majesté, » répondit Georges. « Je m'étais arrêté, au contraire, et j'attendais humblement l'honneur qu'elle me fait en m'adressant la parole. » « Cela ne vous empêche pas, monsieur, de me répondre et de me dire où vous alliez. »« Madame, répondit Georges, je suis d'escorte. Sa majesté chasse, et je vais prendre les ordres du veneur pour les rendez-vous. »« Ah, le roi chasse encore aujourd'hui, » dit la reine, en regardant les nuages qui roulaient, gros et noirs, venant de Paris. « Il a tort, on dirait que le temps menace, n'est-ce pas, André ?»« Oui, madame, » répondit distraitement la jeune femme. « N'êtes-vous pas de cet avis, monsieur ?»« Si fait, madame, mais le roi le veut. »« Que la volonté du roi soit faite, dans les bois et sur les routes, » répondit la reine, avec cette gaieté qui lui était naturelle, et que ni les chagrins de cœur, ni les événements politiques combinés ensemble ne parvenaient à lui faire perdre. Puis, se retournant vers André, « C'est bien le moins qu'il ait cela, » dit-elle en baissant la voix, et puis tout haut à Georges, « Pouvez-vous, monsieur, me dire où chasse le roi ?» ajouta-t-elle. « Dans les bois de Meudon, madame. Allons, accompagnez-le donc et veillez sur lui. » En ce moment, le comte de Charny était entré. Il sourit doucement à André, et secouant la tête, il se hasarda à dire à la reine, « C'est une recommandation dont mon frère se souviendra, madame, non pas au milieu des plaisirs du roi, mais au milieu de ses dangers. » Au son de cette voix qui venait de frapper son oreille sans que sa vue l'eût averti de la présence de Charny, Marie-Antoinette tressaillit et, se tournant, « J'eusse été bien étonnée, » dit-elle avec une rudesse dédaigneuse, « si le propos ne fût pas venu de monsieur le comte Olivier de Charny. » « Pourquoi cela, madame ?» demanda respectueusement le comte. « Parce que c'était une prophétie de malheur, monsieur. » André pâlit en voyant pâlir le comte. Il s'inclina sans répondre. Et puis, sur un regard de sa femme qui semblait s'étonner de le trouver si patient, « Je suis bien malheureux, dit-il, de ne savoir plus comment on parle à la reine sans l'offenser. » Ce plus était accentué, comme au théâtre un habile acteur accentue les syllabes importantes. La reine avait l'oreille trop exercée pour ne pas saisir au passage l'intention que Charny avait donnée à ce mot. « Plus, dit-elle vivement plus, que signifie plus ?»« J'ai encore mal dit à ce qu'il paraît, » fit simplement monsieur Charny, et il échangea avec André un regard que cette fois la reine intercepta. Elle pâlit à son tour, puis, les dents serrées par la colère, « La parole est mauvaise, s'écria-t-elle, quand mauvaise est l'intention. »« L'oreille est hostile, dit Charny, quand hostile est la pensée. Et sur cette riposte plus juste que respectueuse, il se tut. J'attendrai pour répondre, dit la reine, que monsieur de Charny ait plus de bonheur dans ses attaques. Et moi, répondit de Charny, j'attendrai pour attaquer que la reine soit plus heureuse qu'elle ne l'est depuis quelque temps en serviteur. André saisit vivement la main de son mari et s'apprêta à sortir avec lui. Un coup d'œil de la reine la retint. Elle avait vu le mouvement. « Mais enfin, qu'avait-il à me dire, votre mari ?» fit la reine. « Il voulait dire à votre majesté qu'envoyé hier à Paris par le roi, il avait trouvé Paris dans une fermentation étrange. »« Encore, dit la reine, et à quel propos? Les Parisiens ont pris la Bastille et sont en train de la démolir. Que veulent-ils de plus? Répondez, monsieur de Charny. » « C'est vrai, madame, répondit le comte, mais comme ils ne peuvent pas manger des pierres, ils disent qu'ils ont faim. »« Qu'ils ont faim, qu'ils ont faim !» s'écria la reine. « Que veulent-ils que nous fassions à cela ?»« Il y a eu un temps, madame, dit Charny, où la reine était la première à compatir aux douleurs publiques et à les soulager. Il fut un temps où elle montait jusqu'aux mansardes des pauvres et où les prières des pauvres montaient des mansardes à Dieu. » « Oui, répondit clairement la reine, et j'ai été bien récompensé, n'est-ce pas, de cette pitié pour les misères d'autrui. Un de mes plus grands malheurs m'est venu d'être monté dans une de ces mansardes. »« Parce que votre majesté s'est trompée une fois, dit Charny, parce qu'elle a répandu ses grâces et ses faveurs sur une créature misérable, doit-elle mesurer l'humanité tout entière au niveau d'une infâme? Ah, madame, madame, comme vous étiez aimée à cette époque !» La reine lança un regard de flamme à Charny. « Enfin, dit-elle, que se passait-il hier à Paris? Ne me dites pas des choses que vous n'avez pas vues, monsieur. Je veux être sûr de la vérité de vos paroles. Ce que j'ai vu, madame, j'ai vu une partie de la population entassée sur les quais, attendant inutilement l'arrivage des farines. J'ai vu l'autre faisant la queue à la porte des boulangers et attendant inutilement du pain. Ce que j'ai vu, c'est un peuple affamé, des maris regardant tristement leurs femmes, des mères regardant tristement leurs enfants. Ce que j'ai vu, ce sont des poings crispés et menaçants tournés du côté de Versailles. Ah, madame, madame, ces périls dont je vous parlais, cette occasion de mourir pour votre majesté, bonheur que mon frère et moi réclamons des premiers, j'ai bien peur qu'elle ne tarde pas longtemps à nous être offerte. » La reine tourna le dos à Charny avec un mouvement d'impatience et alla appuyer son front brûlant, quoique pâle, à la vitre d'une fenêtre donnant sur la cour de marbre. À peine avait-elle fait ce mouvement qu'on la vit tressaillir. « André, dit-elle, venez donc voir quel est ce cavalier qui nous arrive. Il semble porteur de nouvelles bien pressées. » André s'approcha de la fenêtre, mais presque aussitôt, elle fit en pâlissant un pas en arrière. « Ah, madame, dit-elle d'un ton de reproche. » Charny s'approcha vivement de la fenêtre, il n'avait rien perdu de ce qui venait de se passer. « Ce cavalier, dit-il, en regardant successivement la reine et André, c'est le docteur Gilbert. » « Ah, c'est vrai, dit la reine, de manière qu'il fut impossible même à André de jurer si la reine l'avait attiré à la fenêtre dans un de ces excès de vengeance féminine auxquels la pauvre Marie-Antoinette se livrait parfois, ou parce que ses yeux affaiblis par l'éveil et par les larmes ne reconnaissaient plus à une certaine distance ceux-là même qu'elle avait intérêt à reconnaître. » Un silence glacé s'étendit à l'instant même sur les trois acteurs principaux de cette scène, dont les regards seuls continuèrent d'interroger ou de répondre. C'était en effet Gilbert qui arrivait, apportant ces sinistres nouvelles qu'avait prévues Charny. Cependant, quoiqu'il eût descendu précipitamment de cheval, quoiqu'il eût monté rapidement l'escalier, quoique les trois têtes inquiètes de la reine, d'André et de Charny se fussent tournées vers la porte correspondant à cet escalier et par laquelle le docteur eût dû entrer, cette porte ne s'ouvrit point. Il y eut alors, de la part des trois personnages, une attente anxieuse de quelques minutes. Tout à coup, du côté opposé, la porte s'ouvrit, et un officier s'avançant, « Madame, dit-il, le docteur Gilbert, qui venait pour entretenir le roi d'affaires importantes et pressées, demande l'honneur d'être reçu par votre majesté, le roi étant parti depuis une heure pour Meudon. » « Qu'il entre, dit la reine, fixant sur la porte un regard ferme jusqu'à la dureté. tandis qu'André, comme si elle eût naturellement dû trouver un soutien dans son mari, allait, en reculant, s'appuyer au bras du comte. Gilbert parut sur le seuil de la porte. Il jeta un coup d'œil sur les différents personnages que nous venons de mettre en scène et, s'avançant respectueusement vers Marie-Antoinette, « La reine, dit-il, me permettra-t-elle, en l'absence de son auguste époux, de lui faire part des nouvelles que j'apporte ?»« Parlez, monsieur, dit Marie. En vous voyant venir si rapidement, j'ai appelé toute ma force à mon secours, car je me suis bien douté que vous m'apportiez quelques rudes nouvelles. » La reine eût-elle préféré que je l'eusse laissé surprendre? Averti, la reine, avec cet esprit sain, ce jugement sûr qui la caractérise, la reine ira au-devant du danger, et peut-être alors le danger reculera-t-il devant elle. Voyons, monsieur, ce danger, quel est-il? Madame, 7 ou 8 000 femmes sont parties de Paris et viennent armées à Versailles. 7 ou 8 000 femmes, dit la reine d'un air de mépris. Oui, mais elles se sont arrêtées en route et peut-être seront-elles 15 ou 20 000 en arrivant ici. Que viennent-elles faire? Elles ont faim, madame. Elles viennent demander du pain au roi. La reine se retourna vers Charny. Hélas, madame, dit le comte, ce que j'avais prévu est arrivé. Que faire? Demanda Marie-Antoinette. Prévenir le roi, d'abord, dit Gilbert. La reine se retourna vivement. « Le roi ! Oh non ! S'écria-t-elle. L'exposer ? À quoi bon ?» Ce cri jaillit du cœur de Marie-Antoinette plutôt qu'il n'en sortit. Il était tout le manifeste de cette bravoure de la reine, de sa conscience d'une force toute personnelle et de la conscience en même temps d'une faiblesse qu'elle n'eût dû ni trouver chez son mari, ni révéler à des étrangers. Mais Charny était-il un étranger ? Mais Gilbert était-ce un étranger ? Non, ces deux hommes, au contraire, ne semblaient-ils pas élus par la Providence, l'un pour sauvegarder la reine, l'autre pour sauvegarder le roi. Charny répondit à la fois à la reine et à Gilbert. Il reprenait tout son empire, car il avait fait le sacrifice de son orgueil. « Madame, dit-il, monsieur Gilbert a raison. Il faut prévenir le roi. Le roi est aimé encore. Le roi se présentera aux femmes. Il les haranguera, il les désarmera. » « Mais, demanda la reine, qui se chargera d'aller prévenir le roi? La route est déjà coupée, bien certainement, et c'est une entreprise dangereuse. Le roi est au bois de Meudon. Oui, et si, comme c'est probable, les routes... »« Que votre majesté daigne ne voir en moi qu'un homme de guerre, interrompit simplement Charny, un soldat, est fait pour être tué. » Et ses paroles prononcées, il n'attendit pas la réponse, il n'écouta pas le soupir, il descendit rapidement, sauta sur un cheval des gardes et courut vers Meudon avec 2 cavaliers. À peine avait-il disparu, répondant par un dernier signe à l'adieu qu'André lui envoyait par la fenêtre, qu'un bruit lointain qui ressemblait au mugissement des flots dans un jour d'orage fit dresser l'oreille à la reine. Ce bruit semblait monter des arbres les plus éloignés de la route de Paris que de l'appartement où l'on était, on voyait se dérouler dans le brouillard jusqu'aux dernières maisons Versailles. Bientôt l'horizon devint menaçant à la vue comme il l'était à l'oreille. Une pluie blanche et piquante commença de rayer la brume grise. Et cependant, malgré ces menaces du ciel, Versailles s'emplissait de monde. Les émissaires se succédaient au château. Chaque émissaire signalait une nombreuse colonne venant de Paris, et chacun, songeant aux joies et aux triomphes faciles des jours précédents, se sentait au cœur les uns comme un remords, les autres comme une terreur. Les soldats, inquiets et se regardant les uns les autres, prenaient lentement leurs armes. Pareil à des gens ivres qui essaient de secouer le vin, les officiers, démoralisés par le trouble visible des soldats et les murmures de la foule, respiraient péniblement cette atmosphère toute chargée de malheurs qu'on allait leur attribuer. De leur côté, les gardes du corps, 300 hommes à peu près, montaient à cheval froidement et avec cette hésitation qui prend l'homme d'épée lorsqu'il comprend qu'il aura affaire à des ennemis dont l'attaque est inconnue. Que faire contre des femmes qui sont parties menaçantes et avec des armes, mais qui arrivent désarmées et ne pouvant même plus lever les bras tant elles sont lasses, tant elles ont faim? Cependant, à tout hasard, ils prennent leur rang, tirent leurs sabres et attendent. Enfin, les femmes paraissaient. Elles arrivaient par deux routes. À moitié chemin, elles s'étaient séparées. Les unes avaient pris par Saint-Cloud, les autres par Sèvres. Avant de se séparer, on avait partagé 8 pains. C'est tout ce qu'on avait trouvé à Sèvres. 32 livres de pain pour 7 000 personnes. En arrivant à Versailles, à peine pouvaient-elles se traîner. Plus des trois quarts avaient semé leurs armes sur la route. Comme nous l'avons dit, Maillard avait obtenu du dernier quart qu'il laissa les siennes aux premières maisons de la ville. Puis, en entrant dans la ville, « Allons, dit-il, pour qu'on ne doute pas que nous soyons des amis de la royauté, chantons « Vive Henri IV !» Et, d'une voix mourante, et qui avait à peine la force de demander du pain, elles entonnèrent le chant royal. Aussi, l'étonnement fut grand au palais, lorsqu'au lieu des cris et des menaces, on entendit des chants, lorsqu'on vit surtout les chanteuses chancelantes, la fin ressemble à l'ivresse, venir coller leurs visages hâves, pâles, livides, souillés, dégoulinant d'eau et de sueur, des milliers de figures effrayantes, superposées, doublant à l'œil étonné le nombre des visages par le nombre des mains qui se crispent et s'agitent le long des barreaux dorés. Puis, de temps en temps, du sein de ces groupes fantastiques, s'échappaient de lugubres hurlements. Du milieu de ces figures agonisantes, jaillissaient des éclairs. De temps en temps encore, toutes ces mains abandonnent le barreau qui les soutient et, à travers les intervalles, s'allongent du côté du château. Les unes, ouvertes et tremblantes, celles-là demandent. Les autres, crispées et tendues, celles-là menacent. Oh, le tableau était sombre. La pluie et la boue, voilà pour le ciel et la terre, la faim et la menace, voilà pour les assiégeants, la pitié et le doute, voilà pour les défenseurs. En attendant Louis XVI, la reine, pleine de fièvre et de résolution, fait ordonner la défense, mais peu à peu, les courtisans, les officiers, les hauts fonctionnaires se sont groupés autour d'elle. Au milieu d'eux, elle aperçoit Monsieur de Saint-Priest, ministre de Paris. « Allez voir décidément ce que veulent ces gens, monsieur, » dit-elle. Monsieur de Saint-Priest descend, traverse la cour et s'approche de la grille. « Que voulez-vous » demande-t-il aux femmes. « Du pain, du pain, du pain !» répondirent à la fois 1000 voix. « Du pain !» répond Monsieur de Saint-Priest avec impatience. « Quand vous n'aviez qu'un maître, vous ne manquiez pas de pain. À présent que vous en avez 1200, vous voyez où vous en êtes. » Et Monsieur de Saint-Priest se retire au milieu des cris de ses affamés en ordonnant de tenir la grille fermée. Mais une députation s'avance et devant laquelle il faudra bien que la grille s'ouvre. Maillard s'est présenté à l'Assemblée au nom des femmes. Il a obtenu que le président, avec une députation de 12 femmes, viendra faire des représentations au roi. Au moment même où la députation, mouniée en tête, sort de l'Assemblée, le roi entre au galop par les communs. Charny la rejoint dans le bois de Meudon. « Ah, c'est vous, monsieur ?» lui demanda le roi. « Est-ce à moi que vous en avez ?»« Oui, sire. »« Que se passe-t-il donc ? Vous avez été grand train ?»« Sire, 10 000 femmes sont à Versailles à 7 heures, arrivant de Paris et demandant du pain. » Le roi haussa les épaules, mais bien plutôt avec un sentiment de pitié que de dédain. « Hélas, dit-il, si j'en avais du pain, je n'attendrais pas qu'elles vinssent à Versailles pour m'en demander. » Et cependant, sans faire d'autres observations, en jetant un regard douloureux du côté où s'éloigna la chasse qu'il était forcé d'interrompre, « Allons donc à Versailles, monsieur, dit-il. » Et il était parti pour Versailles. Il venait d'arriver, comme nous avons dit, lorsque de grands cris retentirent sur la place d'armes. « Qu'est-ce que cela ? » dit le roi. « Sire, s'écria Gilbert, en entrant pâle comme la mort, ce sont vos gardes qui, conduits par Monsieur Georges de Charny, chargent le président de l'Assemblée nationale et la députation qu'il conduit vers vous. »« Impossible !» s'écria le roi. « Écoutez, les cris de ceux qu'on assassine, voyez, voyez, tout le monde fuit !»« Faites ouvrir les portes !» s'écrie le roi. « Je recevrai la députation !» Mais, sire, s'écria la reine, faites ouvrir, dit Louis XVI, les palais des rois sont lieux d'asile. Hélas, dit la reine, excepté peut-être pour les rois. Charny et Gilbert se précipitent par les degrés. Au nom du roi, crie l'un, au nom de la reine, crie l'autre. Et tous deux ajoutent, ouvrez les portes. Mais cet ordre n'est pas si vite exécuté que le président de l'Assemblée nationale n'ait été renversé dans la cour et foulé aux pieds. À côté de lui, deux des femmes de la députation ont été blessées. Gilbert et Charny se précipitent. Ces deux hommes, partis l'un du haut de la société, l'autre d'en bas, se sont rencontrés dans le même milieu. L'un veut sauver la reine par amour pour la reine, l'autre veut sauver le roi par amour de la royauté. Les grilles ouvertes, les femmes se sont précipitées dans la cour. Elles se sont jetées dans les rangs des gardes, dans ceux des soldats du régiment de Flandre. Elles menacent, elles prient, elles caressent. Le moyen de résister à des femmes qui implorent des hommes au nom de leur mère et de leur sœur. « Place, messieurs, place à la députation !» crie Gilbert. Et tous les rangs s'ouvrent pour laisser passer Mounier et les malheureuses femmes qu'il va présenter au roi. Le roi, prévenu par Charny, qui a pris les devants, attend la députation dans la chambre voisine de la chapelle. C'est Mounier qui parlera au nom de l'assemblée, c'est Madeleine Chambry, cette bouquetière qui a battu le rappel, qui parlera au nom des femmes. Mounier dit quelques mots au roi et lui présente la jeune bouquetière. Celle-ci fait un pas en avant, veut parler, mais ne peut prononcer que ces mots « Sire, du pain !» et elle tombe évanouie. « Au secours !» crie le roi, « au secours !» André s'élance et présente son flacon au roi. « Ah, madame !» dit Charny à reine avec le ton de reproche. La reine pâlit et se retire dans son appartement. « Préparez les équipages, dit-elle. Le roi et moi, nous partons pour Rambouillet. » Pendant ce temps, la pauvre enfant revenait à elle. En se voyant entre les bras du roi qui lui faisait respirer des selles, elle poussa un cri de honte et voulut lui baiser la main. Mais le roi l'arrêta. « Ma belle enfant, lui dit-il, laissez-moi vous embrasser. Vous en valez bien la peine. » « Oh, sire, sire, puisque vous êtes si bon, dit la jeune fille, donnez donc l'ordre. » « Quel ordre ?» demanda le roi. « Mais l'ordre de faire venir les blés, afin que la famine cesse. »« Mon enfant, dit le roi, je veux bien signer l'ordre que vous demandez, mais en vérité, j'ai bien peur qu'il ne vous serve pas à grand-chose. » Le roi se mit à une table et commençait à écrire lorsque tout à coup un coup de feu isolé se fait entendre, suivi d'une fusillade assez vive. « Ah, mon Dieu !» s'écrie le roi. « Qu'y a-t-il encore ? Voyez cela, monsieur Gilbert !» Une seconde charge a lieu sur un autre groupe de femmes, et c'est cette charge qui a amené le coup de fusil isolé et la fusillade. Le coup de fusil isolé a été tiré par un homme du peuple et a cassé le bras à monsieur Savonnière, lieutenant des gardes, au moment où ce bras était levé pour frapper un jeune soldat réfugié contre une baraque qui, les deux bras étendus et désarmés, protégeait une femme à genoux derrière lui. À ce coup de fusil ont répondu, de la part des gardes, 5 ou 6 coups de carabine. 2 balles portées, une femme est tombée morte, on en emporte une autre grièvement blessée. Le peuple riposte, et à leur tour, 2 gardes du corps tombent de leurs chevaux. Au même instant, les cris de « Place, place !» se font entendre. Ce sont les hommes du faubourg Saint-Antoine qui arrivent, traînant 3 pièces de canon qu'ils mettent en batterie en face de la grille. Heureusement, la pluie tombe par torrent, la mèche inutilement rapprochée de la lumière, la poudre détrempée par l'eau refuse de prendre. En ce moment, une voix glisse tout bas à ces paroles à l'oreille de Gilbert. « Monsieur de Lafayette arrive et n'est plus qu'à 1/2 lieue d'ici. » Gilbert cherche en vain qui lui a donné la vie, mais de quelque part qu'il vienne, la vie est bon. Il regarde autour de lui, voit un cheval sans maître, c'est celui de l'un des 2 gardes qui vient d'être tué. Il saute dessus et part au galop dans la direction de Paris. Un second cheval sans cavalier veut le suivre, mais à peine a-t-il fait 20 pas sur la place qu'il est arrêté par la bride. Gilbert croit qu'on devine son intention et qu'on veut le poursuivre. Il jette un regard derrière lui, tout en s'éloignant. On ne pense point à cela. On a faim, on pense à manger, et l'on égorge le cheval à coups de couteau. Le cheval tombe et en un instant est dépecé en 20 morceaux. Pendant ce temps, comme à Gilbert, on est venu dire au roi « Monsieur de Lafayette arrive ». Il venait de signer à Mounier l'acceptation des droits de l'homme. Il venait de signer à Madeleine Chambry l'ordre de laisser venir les grains. Muni de ce décret et de cet ordre qui, pensait-on, devait calmer tous les esprits, Maillard, Madeleine Chambry et 1 millier de femmes reprirent le chemin de Paris. Aux premières maisons de la ville, elles rencontrèrent Lafayette, qui, pressé par Gilbert, arrivait au pas de course conduisant la garde nationale. « Vive le roi !» crièrent Maillard et les femmes, levant leurs décrets au-dessus de leur tête. « Que parliez-vous donc des dangers que court sa majesté ?» dit Lafayette, étonné. « Venez, venez, général !» s'écria Gilbert, continuant de presser. « Vous en jugerez vous-même !» Et Lafayette se hâte. La garde nationale entre dans Versailles tambour battant. Au premier battement du tambour qui pénètre dans Versailles, le roi sent que l'on touche respectueusement son bras. Il se retourne, c'est André. « Ah, c'est vous, madame de Charny, dit-il, que fait la reine ?»« Sire, la reine vous fait supplier de partir, de ne pas attendre les Parisiens. À la tête de vos gardes et des soldats du régiment de Flandre, vous passerez partout. » « Est-ce votre avis, monsieur de Charny ?» demanda le roi. « Oui, sire, si du même coup vous traversez la frontière. Sinon, mieux vaut rester. » Le roi secoua la tête. Il reste non point parce qu'il a le courage de rester, mais parce qu'il n'a pas la force de partir. Tout bas, il murmure « Un roi fugitif, un roi fugitif !» Puis, se retournant vers André, « Allez dire à la reine de partir seule. » André sortit pour s'acquitter de la commission. 5 minutes après, la reine entra et vint se ranger près du roi. « Que venez-vous faire ici, madame ?» demanda Louis XVI. « Mourir avec vous, monsieur, » répondit la reine. « Ah !» murmura Charny, « voilà où elle est vraiment belle. » La reine tressaillit, elle avait entendu. « Je crois en effet que je ferais mieux de mourir que de vivre, » dit-elle en le regardant. En ce moment, la marche de la garde nationale battait sous les fenêtres même du palais. Gilbert entra vivement. « Sire, dit-il au roi, votre majesté n'a plus rien à craindre, monsieur de Lafayette est en bas. » Le roi n'aimait pas monsieur de Lafayette, mais se contentait de ne pas l'aimer. Du côté de la reine, c'était autre chose, elle le haïssait franchement et ne cachait pas sa haine. Il en résulta qu'à cette nouvelle qu'il croyait une des plus heureuses qu'il pût annoncer en ce moment, Gilbert ne reçut pas de réponse. Mais Gilbert n'était pas homme à se laisser intimider par le silence royal. « Votre Majesté a entendu, dit-il au roi d'un ton ferme, monsieur de Lafayette est en bas et se met aux ordres de votre Majesté. » La reine continua de rester muette, le roi fit un effort sur lui-même. Qu'on aille lui dire que je le remercie et qu'on l'invite de ma part à monter. » Un officier s'inclina et sortit. La reine fit 3 pas en arrière, mais d'un geste presque impératif, le roi l'arrêta. Les courtisans se formèrent en 2 groupes. Charny et Gilbert demeurèrent près du roi. Tous les autres reculèrent, comme la reine, et allèrent se ranger derrière elle. On entendit le pas d'un seul homme, et monsieur de Lafayette parut dans l'encadrement de la porte. Au milieu du silence qui se fit à sa vue, une voix appartenant au groupe de la reine prononça ces 2 mots « Voilà Cromwell !» Lafayette sourit. « Cromwell ne fut pas venu seul chez Charles Ier, » dit-il. Louis XVI se retourna vers ses terribles amis qui lui faisaient un ennemi de l'homme qui accourait à son secours, puis à monsieur de Charny. « Comte, dit-il, je reste. Du moment que monsieur de Lafayette est ici, je n'ai plus rien à craindre. Dites aux troupes de se retirer sur Rambouillet, la garde nationale prendra les postes extérieurs, les gardes du corps ceux du château. » Puis, se retournant vers Lafayette, « Venez, général, j'ai à causer avec vous. » Et comme Gilbert faisait un pas pour se retirer, « Vous n'êtes pas de trop, docteur, dit-il, venez. » Et montrant le chemin à Lafayette et à Gilbert, il entra dans un cabinet où tous 2 le suivirent. La reine les suivit, et quand la porte fut refermée, « Ah, dit-elle, c'était aujourd'hui qu'il fallait fuir. Aujourd'hui, il était temps encore, demain peut-être, sera-t-il trop tard ?» Et elle sortit à son tour pour rentrer dans ses appartements. Et cependant, une grande lueur, pareille à celle d'un incendie, frappait les vitres du palais. C'était un immense foyer où l'on faisait rôtir les quartiers du cheval mort.